Le texte de base de notre causerie d'aujourd'hui se trouve dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1. Le cœur de ce texte, les versets 5 à 7, est une liste de vertus chrétiennes qui jaillissent de la foi et qui, en même temps, la consolident et l'affermissent. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous remarquons que Pierre ne parle pas ici de la foi comme d'une vertu qu'il faut chercher à acquérir. Il parle à ceux qui la possèdent déjà. L'épistolier aux Hébreux affirme d'ailleurs que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est un principe actif. Nous avons souvent insisté sur le fait que la foi ne se contente pas de parler, elle se démontre. Pour qu'elle conserve sa vitalité, il faut la nourrir, et c'est de cette nourriture que nous entretient l'apôtre du Christ. Notre foi est donc appelée à croître. En fait, celui qui vient de recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, est un nouveau-né en Christ. Il vient de passer par la nouvelle naissance. Il est appelé à croître spirituellement en prenant une nourriture saine. C'est Pierre lui-même qui dira d'ailleurs « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Si notre foi est véritable, elle porte déjà en elle ses fruits naturels, comme la graine porte déjà en puissance l'arbre qui doit surgir d'elle. La foi doit donc dépenser de l'énergie spirituelle. Elle est appelée à créer, et l'exercice de chaque vertu en appelle une autre. On pense au bâtisseur qui pose pierre sur pierre, figure qu'emprunte d'ailleurs l'apôtre dans sa première lettre, quand il dit « Approchez-vous de lui, c'est-à-dire du Christ ». Qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gardons-nous cependant, dans notre orgueil ou notre imprudence, d'hypertrophier une qualité quelconque. Souvenons-nous plutôt qu'une ou deux qualités, même réelles, ne constitue pas forcément un passeport pour le ciel. Paul n'a-t-il pas dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » De même, un homme peut être doué de tempérance, mais s'il n'a pas la foi ou s'il lui manque l'amour fraternel, sa maison est mal construite, elle est branlante, vouée à la ruine. Ce qui frappe aussi dans ce passage, c'est la pleine participation du chrétien qui est ici exigée. Son rôle n'est pas passif. Le texte respire d'énergie. Faites tous vos efforts. La disproportion qui existe entre l'œuvre de Dieu et la participation de l'homme est d'abord déconcertante. À quoi peuvent servir les pauvres soubresauts de la volonté humaine si inconstantes dans le contexte de la volonté et de la puissance de Dieu? Mais par ce passage et par bien d'autres dans l'Écriture, Dieu nous fait sentir l'importance de notre rôle, qui n'est pas méritoire, loin s'en faut, mais qui constitue un devoir salutaire et par là même une grâce. Méditons à cet égard cette parole du Christ qui conclut une parabole. « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Attendons-nous à présent, pendant quelques instants, à définir la science ou connaissance dont parle l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Mais d'abord, quelques mots sur cette vertu, à laquelle le chrétien doit ajouter la science. La vertu est littéralement la puissance impatiente de se manifester. C'est la mobilisation de toute notre énergie au service exclusif du Seigneur. Ce terme porte en lui les notions de force et de dynamisme. Voilà la vertu qui doit consolider la foi chrétienne. Cependant, il nous arrive de constater que la foi de certains chrétiens, la nôtre peut-être, s'exprime maladroitement. L'exercice de leur force spirituelle est désordonné. Ils sont comme ces Juifs au sujet desquels Paul écrit « Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Leur jugement n'est pas éclairé. Leur science ou connaissance est insuffisante. C'est pourquoi l'Esprit nous demande d'ajouter à la vertu la connaissance, laquelle implique la sagesse et l'intelligence dans l'exercice de notre foi. » Paul rappelle aux chrétiens de la ville de Colosse, dans l'ancienne province romaine d'Asie, dont Éphèse était la capitale, qu'ils se sont dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et qu'ils ont revêtu l'homme nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Évitons toutefois de confondre savoir et connaissance. Selon une définition précise, le savoir est un ensemble de notions purement intellectuelles qui restent extérieures à l'être auquel elles se rapportent. La connaissance, elle, implique toujours une relation personnelle faite d'intimité et de communion qui dépasse les apparences pour saisir la réalité profonde et cachée. Elle est une pénétration, une prise de possession. Connaître Dieu, connaître Christ, c'est pouvoir dire avec une joyeuse assurance « Mon Père, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est donc pas l'érudition qu'il doit convoiter, mais une connaissance plus parfaite de son Dieu, de son Sauveur, de son salut. L'Écriture semble même décourager la recherche du savoir comme une fin en soi. Paul ne dit-il pas « La science enfle, c'est la charité qui édifie. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. » Mais il dit aux Colossiens « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » L'ignorance de la volonté de Dieu est une des causes de la division religieuse qui émiette lamentablement le christianisme. Déjà, au temps apostolique, elle causait des ravages dans le champ des fidèles et en conséquence, les apôtres luttaient âprement. Selon l'expression même de Paul, ils renversaient les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Dieu, dénonçant les personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. D'où cette mise en garde formelle. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle peut être la religion de ceux qui ne connaissent Dieu que par un sermon occasionnel, de ceux qui ne daignent pas ouvrir et méditer le livre où Dieu leur parle, mais qui en laissent le soin à ceux qui sont du métier. Qu'un orateur éloquent vienne déclamer, et c'est l'ébranlement de convictions déjà lézardées par une ignorance coupable. Luc, l'écrivain sacré à qui nous devons un évangile et la rédaction du livre des Actes des Apôtres, ne nous cache pas son admiration pour les Juifs de la ville de Bérée en Macédoine, car ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La connaissance de Dieu implique une grande humilité, l'abdication de tout orgueil et de toute idée préconçue. Réciter la Bible par cœur ne constitue pas une connaissance de Dieu. Ce n'est qu'un exploit de la mémoire. Connaître Dieu, c'est l'aimer à travers sa parole. Et l'apôtre Jean nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Personne ne peut dire qu'il connaît le Seigneur s'il ne considère pas cette connaissance comme la plus excellente et la plus enviable des sciences. Paul exprime admirablement sa conviction personnelle dans sa lettre aux chrétiens de Philippe. « Je tiens tout désormais pour désavantageux, au prix du gain suréminent qu'est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre, afin de gagner le Christ. » Ce raisonnement est évidemment insensé aux oreilles des sages de ce monde, qui se complaisent dans une gloire qui est comme la fleur de l'herbe, bientôt desséchée et oubliée. Ils mettent leur confiance et leur amour dans ce monde. Ils se tourmentent pour s'enrichir. Ils y appliquent leur intelligence. Ils poursuivent du regard ce qui va disparaître, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Or, Dieu a déjà convaincu de folie la sagesse du monde. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dit l'apôtre Paul, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le chrétien, lui, fonde sa foi non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce conflit existera toujours, et le chrétien en sortira toujours vainqueur, pourvu qu'il sache dire, avec l'apôtre Paul, « Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi ».